Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Évidemment, vous comprendrez que la nouvelle du décès de Paul Hude nous a tous secoués. On savait qu'il était malade, qu'il avait subi une chirurgie importante au cerveau. Mais d'apprendre que après la chirurgie de ce que j'ai compris, s'est bien déroulée, il y a eu une complication et il est décédé. On ne sait pas pourquoi. J'écoutais Pierre Hude, son frère, qui était à Tout le monde en parle hier et qui a dit « La famille veut savoir ce qui est arrivé, c'est normal ». Paul avait déjà eu des antécédents cardiaques dans le passé. Et quand une nouvelle comme celle-là nous arrive et qu'elle nous touche tellement, c'est une collision entre la peine, la tristesse, c'est sûr, puis en même temps, une panoplie de souvenirs extraordinaires. Et je veux vous faire jouer ce matin certains extraits d'une entrevue que Paul nous a accordée. C'était en juin 2022, alors qu'il quittait le 98.5. Et on a fait le tour, disons, un peu de la carrière, puis des grands moments de sa vie à la radio et tout ça, et de cette relation très spéciale que j'ai eu le plaisir de développer avec lui, à partir de du moment de la fusion avec CKC. Mais une des questions que je lui ai posées, parce que Paul a commencé tellement jeune à la radio, je lui ai dit, écoute, te souviens-tu de cette nuit où t'as animé pour la première fois?
Ce fut une nuit d'horreur. Le 4 mai, Paul, 1975, à la plus grosse antenne au Canada, CKC 730, avec toutes les légendes, Jacques Proulx, Louis-Paul Allard. Alors, on m'avait donné le créneau de la nuit de week-end, mais j'étais mon propre metteur en onde. Et je n'avais eu que quelques heures pour me familiariser avec la console, ce qui a donné, les deux ou trois premières heures, une histoire d'horreur. Mais vraiment mauvais.
Ça s'est replacé vraiment. Rapidement quand même.
Oui, ça s'est replacé à peu près au deuxième week-end. Et je remercie encore le directeur des programmes de l'époque que j'avais beaucoup, Pierre Robert, celui qui avait donné surprise à la télévision, qui avait fait preuve d'une patience incroyable à mon égard.
Et Paul a eu cette carrière extraordinaire, vous le savez, animateur du matin à Rythme FM, animateur à CKC. Et puis est arrivée cette journée. Fusion entre deux entreprises en compétition, Radio Mutuelle, Télémédia, CKC, CJMS. Je faisais le matin à CJMS, Paul faisait le matin à CKC. On se connaissait à peine, on s'était croisés à quelques reprises. Et en une fin de semaine, je débarquais à CKC et Paul devenait mon gars de sport et aussi responsable d'une capsule d'humour. C'est un mariage forcé. Paul nous raconte un peu ce souvenir-là.
Ben, je dois dire que c'est un enseignement des choses de la vie. Il arrive des moments qui semblent traumatisants au départ, puis tout à coup, ça ouvre la voie vers quelque chose d'autre. Et on est devenus amis alors que nous étions concurrents.
Exact.
Nous avons été ensuite amenés au sein de la famille forcée du grand CKC. Et je considère que c'était arrivé en 1994, rappelle-toi. Et je considère que quelques 28 ans plus tard, je te compte parmi mes meilleurs amis, Paul.
Et t'es tellement un bon ami que j'ai organisé surprise pour te piéger à l'aéroport de Saint-Hubert. C'est chiant, mais je l'ai fait. Ça a donné l'épisode que les gens ont vu. Alors
mais
que t'étais...
je tiens à dire, j'ai eu ma revanche
oui, c'est vrai.
Au quiz Le Cercle,
oui,
lorsque ton fils a triomphé.
Vous voyez, même les amis peuvent se faire des vacheries comme ça. Mais c'est ça qui était extraordinaire avec Paul, c'est que cette complicité qui n'était pas évidente, là, juste rappeler le contexte de l'époque, là. J'arrive à CKC, puis c'est moi qui anime l'émission, puis c'est le fauteuil de Paul. Puis je me souviens de ce moment très précis, je me trouve dans le bureau avec lui, je dis, écoute, pas moi qui décide, c'est pas de savoir qui est le plus drôle entre les deux, qui est le meilleur ou pas, c'est comme ça. Puis il m'a dit, écoute, moi, je suis prêt d'essayer. Puis on a fait ça ensemble pendant quelques années, et non seulement cette complicité à l'antenne, mais aussi cette belle histoire d'amitié que j'aurais dû peut-être mieux entretenir dans les derniers moments. Je savais qu'il était malade, je voulais aller le voir. Puis c'est toujours ça. On a échangé des courriels l'automne dernier avec la promesse d'aller manger bientôt, puis tout ça. Mais j'ai tellement de souvenirs avec lui. Et juste une anecdote avant d'aller plus loin sur Janis Joplin. On s'en va à New York. Et Paul est un gars, évidemment, drôle, amusant, mais pas très démonstratif non plus. Et il me dit, j'aimerais ça aller voir un spectacle avec... Il y a un spectacle de hommage à Janis Joplin. Et j'ai dit, ah ouais? Ben, je dis, écoute, on peut aller voir ça, certain. Il dit, c'est pas très loin d'où habite Richard Châteauvert. Je dis, OK, j'appelle Richard. Je dis, tu es capable de nous avoir des billets? Il dit, oui, je vais aller faire les réservations. Tout est parfait. C'est une espèce de salle de spectacle bar, puis t'achètes un billet, puis t'as deux consommations, comme on dit. C'était là, et je l'avais jamais vu comme ça. C'est pas assis une seconde. Et c'était toute l'histoire et la carrière de Janis Joplin. Alors, je veux encore profiter, je l'ai dit en fin de semaine, mais je veux le redire, c'est important pour moi d'avoir ses pensées pour Francine, pour ses deux gars, pour Pierre, sa famille, sa sœur aussi. Et tous les gens qui l'ont côtoyé, puis on a vu vraiment ce déferlement de témoignages en fin de semaine. Et tout était vrai quand on décrivait sa personnalité, son style. C'était vraiment quelqu'un hors norme, là. Et tellement passionné. Mais quand tu dis, il y a des gens qui ont des passions, mais lui, je sais pas où il trouvait le temps pour justement faire un paquet d'activités reliées à ses passions, c'est-à-dire voyager, aller voir des éclipses, aller se promener aux États-Unis, un pays qu'il adorait. Alors, c'est un moment difficile, je pense, pour tous les gens qui l'ont connu. Je pense à Catherine Huet, je pense à Thérèse Parisien aussi, des gens qui ont été très près de lui. Et d'apprendre comme ça son départ brutal à seulement 69 ans. Et puis, comme me disaient des gens en fin de semaine, ça nous rappelle l'importance, un, d'entretenir nos amitiés, deux, de se garder du temps pour soi, puis de faire ce qu'on a envie de faire le plus vite possible et pas toujours repousser à plus tard des projets qu'on a. Il faut les faire maintenant parce que tu sais pas ce qui t'attend dans le détour. Très bien, ce matin, à la une de la presse, un dossier troublant concernant le Centre jeunesse de Laval. C'est une enquête d'Ariane Lacourcière et Caroline Touzin. Et qu'est-ce qu'on apprend? Ben, on apprend que ça déborde. Et que quand ça déborde, ben, on a décidé d'envoyer des enfants dans ce qu'on appelle des salles d'isolement, des salles de retrait. Ça ressemble davantage à des cellules et c'est odieux. C'est odieux parce que ce sont des enfants qui devraient pas se retrouver dans de tels endroits. Mais malheureusement, ils le sont. Et quand je dis que ça ressemble à des cellules, vous irez voir les photos, là. Moi, j'en avais visité en 2005. Ces unités où on plaçait les enfants turbulents, les enfants qui étaient en crise. Je dis pas qu'il faut pas, quand un enfant est un danger pour les autres ou une menace pour lui-même, qu'il faut pas intervenir. Mais l'environnement était affreux. Et même la ministre que j'avais amenée dans une des salles, dans un centre jeunesse flambant neuf, est en train d'étouffer là-dedans elle-même, là, tellement, Anne de Lille, là, tellement elle se sentait pas bien. Et là, je regardais ce matin les chiffres. C'est un centre qui déborde. Puis t'as des enfants qui se retrouvent pas loin avec des ados, des bébés, des petits gars de 9 ans, 8, 9 ans, avec des ados qui sont souvent plus imposants puis qui peuvent être menaçants pour ces enfants-là. Et là, les gens des syndicats réagissent, les gens de la DPJ de Laval en disant « On a déjà soumis au gouvernement » un plan d'action il y a plusieurs années. Comment ça se fait qu'on a un système carcéral pour enfants? C'est ça dont on parle. Et des taux d'occupation de 100% et plus. On a eu le rapport de la commission Laurent. On a nommé une directrice nationale pour la protection de la jeunesse. Elle est où? S'il n'y a pas des gens qui parlent, s'il n'y a pas des gens qui avertissent ces deux journalistes, ça demeure un secret. Et évidemment, les gens qui parlent s'exposent à des représailles de l'employeur, alors que ces gens-là trouvent que ça n'a absolument aucun sens que ces enfants soient gardés dans de telles conditions. Et parmi les commentaires que vous pouvez lire ce matin, tu sais, quand tu places un ado qui mesure 6 pieds, qui pèse 250 à côté d'un petit de 9 ans qui pèse 50, ferme ta gueule, je vais te casser la gueule, puis etc., etc., il y a comme un malaise. Puis ce sont des enfants qui ont besoin de protection. Et je pensais qu'on avait mis ça de côté. Puis là, c'est rendu que tu as une petite table, un petit lit, puis c'est ça ton milieu de vie. Je veux dire, c'est inacceptable. On va parler avec Régine Laurent un peu plus tard dans l'émission ce matin. Et puis dans le Journal de Montréal, parle du niveau de décrochage des gars depuis la pandémie. Il faut juste faire attention à deux, trois éléments. D'abord, c'est vrai qu'il y a une augmentation, et c'est peut-être normal pour une raison très simple. D'abord, la pénurie de main-d'œuvre a fait en sorte qu'il y a eu des augmentations de salaire, puis il y a peut-être des jeunes qui ont été, disons, attirés par le marché du travail. Deuxièmement, ça a été dur, la pandémie puis l'enseignement à distance, pour beaucoup de jeunes. Il est possible que certains d'entre eux aient décroché. Puis la guerre de statistiques, il faut faire attention parce que ça ne tient pas compte de tout. Mais qui est un problème de décrochage chez les gars, c'est documenté. Et même si on a des études et des études, il n'y a pas grand-chose qui change. Et on en parlait pas plus tard que la semaine dernière avec une pédopsychiatre en disant l'école peut échapper les gars très jeunes. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a qui retournent plus tard, ils quittent pendant un an ou deux et retournent compléter leurs études. Ça aussi, il faut en tenir compte. Mais encore là, il y a un malaise dans l'enseignement pour les gars à l'école. T'sais. C'est pas vrai que l'enseignement, moi j'ai jamais cru ça, tu peux enseigner tout de la même façon à un gars et une fille. Il y a des méthodes, il y a des façons, il y a des sujets qui sont différents. Scène internationale, Jean-François Lépine sera avec nous. On va revenir sur le coup, en fait l'état d'urgence qui a été décrété en Haïti après que des gangs armés se soient dirigés vers une prison, pour on a libéré des tueurs. Il y a plus de 3000 personnes, 3500 détenus qui ont pu comme ça se sauver. Alors, l'état d'urgence, la police à Port-au-Prince est débordée, demande à l'armée d'être en soutien. Le premier ministre est en voyage en Afrique. On ne sait pas s'il peut rentrer parce qu'on pense qu'il y aura peut-être un coup d'État, une tentative de le renverser. On connaît l'instabilité historique d'Haïti. On a vu il y a quelques semaines à peine l'enquête qui laissait sous-entendre. Puis là, il y a tellement de corruption, puis il y a tellement de magouilles. On ne sait pas ce qui est vrai et pas vrai, que la veuve du président Moïse aurait participé à l'assassinat de son mari, qu'elle aurait été complice, qu'elle aurait joué dans cette pièce de théâtre. Et puis, il y a la vice-présidente Kamala Harris qui demande à Israël un cessez-le-feu. Et c'est la première fois qu'elle s'exprime aussi clairement sur la question. Elle doit rencontrer des hauts dirigeants israéliens. Donc, un cessez-le-feu, libération d'otages et reprise des convois alimentaires. Parce qu'on se retrouve encore ce matin dans le nord de Gaza avec beaucoup de camions transportant médicaments, transportant de la nourriture qui sont stoppés en cours de trajectoire. Et ça n'arrive pas aux Gazaouis qui ont faim. Et cette crise, cette quasi-famine qu'on est en train de créer dans cette région. Alors, est-ce qu'on va finalement obtenir un cessez-le-feu? Les gens de Gaza sont et demeurent absolument terrorisés. Là, il y a une autre bataille qui se prépare entre Québec et Ottawa sur l'immigration. C'est le volet regroupement des familles. En résumé, Québec veut pas permettre trop de regroupement de familles. Pour vous donner un point de référence, le délai d'attente pour quelqu'un qui est au Québec, qui a déjà un premier document, qui veut faire venir quelqu'un de sa famille, sa femme, son mari, j'en ai tous les jours des cas comme ça, l'attente au Québec, c'est 34 mois, et l'attente au Canada, c'est 12 mois. Et là, Radio-Canada nous dit ce matin que le ministre Mark Miller a décidé de partir la bataille avec Québec et qu'il va dépasser le nombre d'immigrants qui entrent ici par le programme du regroupement des familles, donc plus que ce que le Québec est prêt à recevoir. Il dit que c'est une question humanitaire et il autorise ses fonctionnaires à ouvrir la machine et à se foutre carrément des seuils d'immigration fixés par Québec. Il dit que ça fait des mois qu'il en parle avec la ministre Fréchette, il n'y a rien qui avance. Et c'est un volet humanitaire. Et la semaine dernière, on apprenait que la ministre était poursuivie par un avocat qui représente justement des gens qui sont en attente de statut comme ça, d'aller chercher quelqu'un par le biais du fameux regroupement des familles. Alors, c'est un frère, une sœur, une mère, un père, mais ça prend du temps. Ça prend du temps parce que Québec veut pas laisser entrer trop par le biais de ce programme. On attend la décision de la Banque du Canada cette semaine. On pense pas que ça va bouger. Les taux d'intérêt devraient demeurer stables, même si l'inflation est passée sous les 3 % La plupart des économistes disent que ça serait étonnant qu'on aille beaucoup plus loin. Et je vais vous parler de rougeole ce matin avec le docteur Boileau de la Santé publique. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de cas qui ont été détectés au Québec. Il y a eu une hausse. Et alors que la vaccination a fait ses preuves depuis longtemps, mais c'est pas qu'au Québec. Partout dans le monde, on note une augmentation de 2021 à 2022 de 18 % Les facteurs qui ont été identifiés. D'abord, il y a des gens anti-vaccins tout court. Il y a eu ce lien qui a été fait entre la vaccination et l'autisme, un lien qui a été démoli sur le plan scientifique. Et troisièmement, il y a une question de pauvreté et d'accès. Dans beaucoup de pays, la vaccination, c'est compliqué. Certains, je regardais des témoignages en Grande-Bretagne, disaient, ouais, on pensait que c'était l'école, mais finalement, c'est pas l'école. Faut aller dans une clinique. Il y a des centres de vaccination qui existent. Alors, on regardera quelle est la situation au Québec quand même. Et juste vous dire que dans la presse, on nous apprend que Québec refuse de publier son audit sur l'accès illégal aux dossiers de santé. Ça, ce sont les gens qui vont fouiner dans les dossiers de gens connus, de leurs proches, de leurs voisins, pour savoir qu'est-ce qu'ils ont. Ou encore, on disait que c'était vrai dans le cas des pharmaciens, ils fouillaient dans les dossiers avant de fréquenter quelqu'un. Tu sais, une rencontre sur une application comme Tinder, tu dis, OK, tu as des antécédents, lui-là, là, qu'est-ce qu'il prend comme médicament? Et c'est des antidépresseurs, c'est un bipolaire, tu sais, puis bon. Alors, des gens qui n'ont pas d'affaires. Et là, Québec dit, non, on peut pas encore vous donner les résultats de notre enquête. C'est Hugo Jonca qui a fait la recherche. Et là, on dit que c'est pas un portrait juste de la situation. D'après vous, il y en a combien qui fouinent alors qu'ils n'ont pas d'affaires? C'est juste par curiosité un peu malsaine ou encore peut-être pour aller chercher de l'info sur des gens de leur entourage ou sur une fille ou un gars qu'ils ont envie de rencontrer. Et puis demain, ben, c'est le super mardi aux États-Unis. Nikki Haley qui a remporter la victoire dans le district de Columbia, mais on se contrôle pas de peur, là. Trump marche vers l'investiture et un sondage le place devant Biden à l'échelle nationale et les Américains le disent. Commence à le dire un peu plus clairement dans les sondages. Joe Biden est un peu trop vieux pour être président. Il y a un malaise devant cette situation parce qu'on dit il faut un leader plus jeune. C'est pas que Trump est beaucoup plus jeune. Trump aussi a des ennuis. Mais là, c'est comme plus clair, plus évident, et c'est moins gênant de le dire, même si M. Biden s'accroche et veut aller jusqu'au bout.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Vous avez peut-être suivi cette enquête du coroner, le coroner Kamel, concernant la mort de la policière Maureen Breaux. Et il y a eu plusieurs témoins qui ont été entendus et ça met en lumière la gestion des cas des gens qui passent devant la commission d'examen des troubles mentaux. Et quel est le suivi qui est fait pour des gens comme ça qui ne sont pas, par exemple, reconnus criminellement responsables? Parce qu'il y a des ordonnances qui sont... quand une ordonnance, pardon, est émise, elle est respectée comment? Ça se passe concrètement sur le terrain avec les policiers de quelle façon? Un des témoins qui a été entendu par la coroner, c'est le docteur Mathieu Dufour, qui est le chef de département de psychiatrie à l'Institut Pinel. Docteur Dufour, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Je veux comprendre très clairement, parce que j'ai vu votre témoignage, là. Quand quelqu'un est jugé par la commission des troubles mentaux et qu'on ordonne sa remise en liberté avec un paquet de conditions, qui fait le suivi? Comment le suivi est fait pour être certain qu'il respecte ces conditions?
Donc, vous faites référence à la commission d'examen des troubles mentaux. Donc, pour tous les patients qui sont non criminellement responsables, là, ils sont sur cette commission-là jusqu'à temps qu'ils ne sont plus jugés dangereux. Hein? Fait que ça peut durer en moyenne quand même plusieurs années. Et quand ils sont suivis en clinique externe, donc ils sont libérés avec des conditions, puis il y a des conditions très claires, par exemple, il faut que l'hôpital approuve où est-ce qu'ils habitent, il faut être sûr qu'il n'y a pas de violence, qu'ils prennent leurs médicaments, qu'ils prennent pas de drogue et tout ça. Et c'est l'équipe traitante, donc le responsable de l'hôpital qui délègue ça, c'est l'équipe de santé qui est responsable autant pour les soins que pour la surveillance des conditions.
Ça, c'est le principe général, comme on dit. En pratique, vous travaillez en Ontario, vous travaillez au Québec, c'est beaucoup plus décentralisé, il y a beaucoup plus de joueurs sur le territoire québécois qu'en Ontario. En Ontario, c'est assez concentré. Est-ce qu'il n'y a pas un danger de ne pas vraiment savoir ce qu'ils font une fois qu'ils sont sortis?
Ouais, vous faites référence, j'ai travaillé quand même plusieurs années en Ontario, puis on a en Ontario 10 centres spécialisés qui font de la psychiatrie légale. Donc tous les patients sur la commission d'examen sont suivis par ces 10 centres-là, tandis qu'au Québec, on en a 45 centres. Donc beaucoup plus décentralisé, plus de risques d'avoir des équipes qui sont moins spécialisées. On a au Québec beaucoup d'équipes en psychiatrie générale sans avoir les ressources, sans avoir de psychiatre légiste particulièrement, qui suivent ces patients-là. Donc, on a au Québec, je dirais, un suivi qui est plus variable pour ces patients-là.
Là, c'est un terme poli, ça, docteur Dufault. Quand vous dites plus variable, c'est un moins bon suivi.
Ben, je vous dirais que le fameux rôle du responsable de l'hôpital, là, c'est la commission d'examen qui délègue ce rôle-là à l'hôpital. Puis je vous dirais qu'au Québec, il y a des hôpitaux qui comprennent moins le rôle de surveillance relié à la commission d'examen. Puis c'est pourquoi, en fait, le ministère de la Santé a demandé à Pinel de coordonner toute une grande réforme de la psychiatrie légale, ça s'appelle la hiérarchisation de la psychiatrie légale. Et on regarde ce qu'on va faire, moins d'hôpitaux désignés, augmenter la spécialisation. Donc ça va aider à ce problème-là qu'on a présentement. Et aussi, donc, l'Ontario versus le Québec, si on a plus d'équipes qui sont dédiées à la psychiatrie légale, on a, en anglais, on dit des case managers, des gestionnaires de cas. Donc l'hôpital donne au moins, en plus du psychiatre, un intervenant en santé mentale qui est responsable pour tout le suivi des conditions de la commission d'examen. Ce qu'on n'a pas au Québec. Au Québec, il y a certains centres, bon, je pense à Pinel, je travaille là, mais dans tous les instituts universitaires de santé mentale, Douglas, Louis-H, Robert Giffard, à Saint-Jérôme, ils ont aussi des case managers, souvent c'est des criminologues. Et là, je sais que le ministère a quand même mis de l'argent pour pouvoir avoir des criminologues pour ces patients-là.
Ce que les auditeurs veulent comprendre, parce que les cas, on a vu, il y avait des gens qui étaient en liberté, qui avaient brisé leurs conditions, qu'on a remis en liberté, qui représentaient ou pas un risque. Est-ce que quelqu'un va cogner à leur porte pour savoir s'ils consomment de l'alcool, par exemple, d'abord, ils habitent au bon endroit. Est-ce qu'il y a un suivi où on attend que quelqu'un appelle pour les dénoncer?
On est supposé avoir un suivi.
J'aime pas ça quand vous commencez en me disant on est supposé avoir.
Ben, je vous dirais, tu sais, mon expérience au Québec, là, ça fait 5 ans que je suis ici. Je suis aussi président de l'Association canadienne de la psychiatrie légale, fait que je connais comment que ça se passe dans les autres provinces. Puis il se passe des très belles choses au Québec, mais il y a d'autres choses qu'il faut vraiment s'améliorer, comme le suivi en clinique externe. Parce que, par exemple, il faut avoir des gens qui cognent à la porte pour être sûr que le patient est là. Il faut faire beaucoup plus de dépistage urinaire de drogue pour nos patients qui consomment. Il faut que nos patients soient sur des médicaments par injection, longue action d'antipsychotiques. Il y a mieux à faire dans certains centres au Québec. De là, le vaste projet de réforme qui est en cours.
Ce que vous êtes en train de me dire, dans le fond, là, c'est que on se fie beaucoup sur les proches pour rapporter des situations problématiques. Que ça soit un colocataire, que ça soit quelqu'un de la famille qui va dire, là, je pense qu'il va pas bien, ou il a posé tel geste, ou il respecte pas. On se fie sur l'entourage, non?
Ben, on se fie aux gens aussi qui travaillent dans les hébergements. On a de plus en plus d'hébergements spécialisés en psychiatrie légale. Puis, par exemple, moi, Pinel, je travaille dans une unité où c'est des crimes sévères intrafamiliaux. Donc, c'est des gens qui sont plus à risque. On les suit vraiment de manière rigoureuse à Pinel. Mais quand ils sortent de l'hôpital, on les envoie dans des hébergements de psychiatrie légale que des intervenants 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Donc, c'est ces intervenants-là, souvent, qui nous rapportent s'il y a des difficultés. Mais pour ceux-là qui n'ont pas la chance d'être dans des hébergements comme ça, oui, des fois, on se fie aux familles, aux proches. Mais en même temps, il y a des lois de confidentialité au Québec qui sont beaucoup plus restrictives, par exemple en Ontario, quand j'ai parlé dans mon témoignage, qui fait que même pour eux, c'est difficile de pouvoir discuter avec l'équipe traitante, et ça, c'est pas acceptable.
Quand vous dites difficile, c'est concrètement, donnez-moi un exemple de ce que ça peut représenter comme, comme problème.
Ben, en fait, eux autres, ils peuvent nous appeler toujours. Hein? Puis souvent, on a une personne, un intervenant pivot pour ces gens-là. Donc, ils appellent le criminologue, l'infirmière, des fois le psychiatre directement. Mais ce qui est difficile, c'est quand nous, comme équipe traitante, on veut communiquer avec la famille, puis le patient ne consent pas. À moins qu'il y ait un risque. Par exemple, on a des critères spécifiques pour briser la confidentialité, un risque d'imminence, de préjudice grave à quelqu'un en particulier. Si on n'a pas ces critères-là, ben on peut pas briser la confidentialité puis appeler la famille, les proches pour pouvoir, par exemple, discuter de la situation de cas. Donc, en Ontario, il y a cette, pour les patients qui sont sur la commission d'examen, on peut briser la confidentialité comme ça. Donc, pas, on peut pas briser toujours la confidentialité, mais juste pour ces patients-là qui sont plus à risque.
Est-ce que c'est vrai qu'au Québec, on a plus de décisions qui placent des patients sous une responsabilité de commission? Autrement dit, qu'on reconnaît beaucoup plus au Québec les gens qui sont non criminellement responsables.
Ah oui, tout à fait. Ça, c'est prouvé depuis les dernières décennies.
Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on a de différent?
Ouais, en fait, là, les dernières données qu'on a, c'est qu'il y a 6 fois plus de verdicts de non-responsabilité criminelle au Québec. Puis il n'y a pas plus de schizophrénie, il n'y a pas plus nécessairement de crimes au Québec là, par rapport aux autres provinces. Mais ce qu'on voit, c'est que les gens utilisent la judiciarisation, donc le système de psychiatrie légale avec le verdict d'NCR, pour des patients qui rencontrent les critères, mais pour des crimes qui sont moins sévères, parce qu'il y a une déficience, ça ne fonctionne pas dans notre système de psychiatrie générale. Fait que souvent, les familles sont là, « Yes, enfin, le patient... »
Il va être soigné.
Il va être soigné, il va avoir accès au système, on va pouvoir le traiter, malheureusement, souvent contre leur gré, mais c'est ça qu'il faut pour gérer la maladie, parce qu'ils n'ont pas d'autocritique.
Est-ce qu'on peut dire que c'est... C'est-à-dire, ces verdicts, ces décisions-là font en sorte qu'ils vont être traités plutôt que d'être envoyés en prison et qu'il y a une chance d'avoir une réponse à un traitement plutôt que d'être laissé sans trop de suivi en cellule.
Ah oui. Puis en fait, quand on regarde les données, quand un patient est traité dans le système de psychiatrie légale avec un verdict de non-responsabilité criminelle, un, il reçoit des traitements avec une équipe interdisciplinaire à l'hôpital. Puis quand on regarde son taux de récidive, hein, les chances qu'il devienne violent dans le futur, c'est vraiment, vraiment diminué par rapport à s'il allait juste en prison sans obligation de traitement ou de suivi.
Bon, moi, ce qu'on me dit, là, c'est qu'il y a des mises à jour qui se font, des évaluations. Mais quand je suis un policier patrouilleur, là, puis je réponds à un appel, est-ce que je le sais que cette personne-là, l'adresse correspond, par exemple, à quelqu'un qui relève la commission d'examen des troubles mentaux, que voici son dossier, voici les antécédents, est-ce que je sais où je m'en vais ou pas?
Je vous dirais, quand je compare l'Ontario puis le Québec, encore une fois, pour mon témoignage au coroner, la coordination entre les systèmes est moins bonne au Québec.
Bon, vous donnez un exemple et vous me dites si ça se peut. Là. Mettons que je suis votre patient, puis là, vous m'évaluez. Est-ce que ça peut prendre jusqu'à 1 an avant que l'info soit rendue dans le système?
Moi, je pourrais pas dire que ça vous prend 1 an, mais ça va prendre quand même plus de temps qu'en Ontario. Puis par exemple, c'est plus difficile. En fait, moi, je fais des expertises à Pinel aussi. Puis juste avoir accès aux dossiers criminels, c'est déjà plus difficile que, par exemple, quand on fait des expertises en Ontario, que pour faire l'expertise, on a accès tout de suite aux dossiers criminels. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais l'information, le flux d'informations. Tout à fait.
Est-ce que c'est vrai qu'on a perdu la trace de 150 personnes qui relèvent la commission?
Moi, je peux pas vous dire où est-ce que viennent les chiffres, là, mais quand nous, par exemple, pour notre projet de hiérarchisation avec Pinel, on a demandé à tout le réseau de répertorier les patients sur la commission d'examen. Je vous dirais qu'il y a certaines places qui avaient plus de difficultés à trouver les listes parce qu'ils sont plus dans la psychiatrie générale que dans la psychiatrie légale. De là, l'idée peut-être d'avoir moins d'hôpitaux désignés, d'avoir des équipes plus spécialisées pour pouvoir donner des soins. Là.
En fait, ma question, c'est est-ce qu'on en perd dans la nature?
Ben, c'est pas supposé du tout, là. En fait, des patients qui sont sur la commission d'examen doivent passer à chaque année devant la commission d'examen pour voir c'est quoi les conditions pour pouvoir gérer le risque. Donc, je serais très surpris qu'il y ait des gens qu'on perde dans la nature parce qu'il y a un système autour, quand même, autour de la commission
d'examen.
Mais
pendant 1 an, ils peuvent faire pas mal de choses.
Ben, pendant 1 an, ça dépend comment ils sont suivis.
Puis comme on sait qu'ils peuvent être plus ou moins suivis, ben là, on a un certain nombre d'enjeux. C'est un peu ça, mon point. C'est-à-dire, j'ai lu votre témoignage, puis j'ai regardé ce qui se faisait en Ontario. Il me semble qu'on est peut-être pas parfait en Ontario, là, mais nettement en avance sur le contrôle de la personne qui représente un risque.
pour le mandat de surveillance, oui. C'est mieux. Puis en fait, la commission d'examen en Ontario met des fréquences minimales de suivi. Par exemple, quand je travaillais, la commission disait faut qu'on l'équipe, il faut que vous voyez le patient à chaque semaine parce qu'il est plus à risque. Ou à chaque deux semaines, ou un patient moins à risque, à chaque quatre semaines, c'est correct parce qu'il reçoit son injection. Donc, donner un peu plus de balises de suivi, c'est peut-être une piste qu'on pourrait faire au Québec.
On a de l'ouvrage. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Dr. Dufour.
Merci, M. Arcand.
Dr. Mathieu Dufour est psychiatre. Il est le chef du département de psychiatrie à l'Institut Pinel. Et on va suivre le rapport à venir de la coroner Jeanne Kamel dans la mort de la policière Maureen Bro.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Évidemment, nous avons tous et toutes été sous le choc en fin de semaine en apprenant le décès de notre ami, notre camarade de travail, Paul Hood, qui s'est éteint à l'âge de 69 ans. On savait qu'il avait dû subir une chirurgie importante au cerveau, la présence d'une masse. On le pensait hors de danger et puis bang, la nouvelle est arrivée. Et c'est c'est comme une situation où on est d'abord triste, on a de la peine, on pense à ses proches, puis en même temps, on a tellement de souvenirs extraordinaires qui nous viennent en tête, des souvenirs professionnels et beaucoup de souvenirs personnels aussi. Pierre Aude est avec nous, le frère de Paul. Il a eu la gentillesse d'accepter notre invitation. Pierre, bonjour.
Oui, bonjour Paul. Je le fais parce que je connaissais votre amitié très grande entre vous deux et par le respect pour votre émission, bien sûr.
Merci beaucoup et nos pensées vous accompagnent, Francine les enfants, votre sœur également. Il y a un point qui, je pense, et tu l'as abordé un peu hier lors de l'émission Tout le monde en parle, après une chirurgie majeure, là, 8 heures et plus là, en salle d'op, il est ressorti bon comme un patient opéré, mais ça allait bien, si j'ai bien compris.
Oui, en fait, il nous manque des informations. Et incidemment, Paul, c'est encore plus. Hein, c'est plus que 9 heures l'opération. Et son neurochirurgien, qui est une sommité, aurait déclaré j'ai réussi un chef-d'œuvre parce que la masse était plus grande, était plus grosse que ce que le chirurgien croyait au départ. Et l'opération a été très délicate parce que elle était tellement grosse et elle se développait depuis tellement d'années que plusieurs petits vaisseaux sanguins étaient aussi affectés. Et on a dû évidemment procéder à des transfusions, on a dû faire de la suture sur tout ça. Et donc, bravo, et une reconnaissance sans limite là, pour son chirurgien. Et on croyait son état suffisamment bon pour le retourner à Cité de la Santé, parce que l'opération a eu lieu au CHUM, comme tu t'en doutes bien. Mm-hmm. Et il y a eu des complications dans la nuit du vendredi à samedi qui a fait que son cœur soudainement s'est arrêté. Ce qu'on croit comprendre, c'est que même il était en conversation avec l'infirmière qui le surveillait, qui était chargée de voir à ce que tout allait bien. Et tout d'un coup, le cœur s'est arrêté et les réanimations ont été sans succès.
Est-ce que tu dirais que depuis 2 ans, 1 an peut-être, son état de santé, posait des questions dans la mesure où une masse, ça se développe pas comme ça, et ça c'est progressivement. Est-ce que tu avais senti des changements chez lui?
Pas vraiment, à part peut-être dans le dernier mois et demi. On s'est retrouvé aussi dans un contexte malheureux lors du décès de sa belle-sœur, la sœur de Francine, Lise. On a pris un petit goûter après et j'avais trouvé peut-être que son propos était, je dirais pas incohérent, mais montrait parfois des signes bizarres. Mais Paul, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que la masse n'affectait pas le cognitif, là, la parole, la mémoire, la reconnaissance des choses autour. La masse a beaucoup plus affecté son équilibre. Et ce sont de très vilaines chutes qui l'ont amené d'abord à l'hôpital en urgence. Et là, le personnel médical à la Cité de la Santé a suspecté quelque chose de grave, parce qu'on ne perd pas l'équilibre comme ça. Et la dernière chute avait été particulièrement difficile. Il y avait eu beaucoup d'ecchymoses au visage et à la tête. Et c'est là qu'on a, par résonance magnétique et par différentes formes de d'analyse, c'est là qu'on a vu qu'il y avait cette masse, une masse énorme, et comme je le disais, Paul, qui se développait probablement depuis tant d'années, mais sans qu'aucun signe ne permette de croire qu'il y avait quelque chose de suspect au cerveau.
Je veux qu'on parle de lui. Il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné. On connaît tous des gens qui ont des passions. Une, deux, trois, quatre passions, et qui les vivent pleinement. Comment faisait-il pour en avoir autant et y investir autant de temps? C'était hallucinant, là.
Oui, écoute, pour avoir été son co-chambreur, Paul, depuis ma naissance, jusqu'à ce que je quitte le foyer familial à 20 ans, à 21 ans, je peux vous dire que c'est un peu le sang qu'on a dans les veines, dans la famille. Puis je veux surtout pas me placer là au même niveau que Paul. Tu comprends ce que je veux dire?
Oui,
c'est
oui.
Que je l'ai côtoyé. Puis tout nous a toujours intéressés. On a toujours été fascinés par les moindres choses. Et cette fascination-là, puis cette passion-là, on la nourrissait soit par une vraie fascination, soit par la caricature ou la dérision. Et donc, évidemment, Paul a poussé ça à un niveau qui était le sien. J'ai toujours pensé que Paul cherchait à être parfaitement au courant, parfaitement en contrôle de sa connaissance sur le plan vertical. Moi, c'était plus sur le plan horizontal. J'aimais aller d'un truc à un autre, à un autre, à un autre. Paul refusait de ne pas comprendre ou de ne pas saisir une chose à laquelle il s'attachait. Il devait comprendre, il devait saisir, il devait en voir toutes les ramifications, toutes les tentacules. Et il était heureux comme ça, il était bien comme ça, et il aura vécu comme ça, il aura nourri cette façon d'être jusqu'à sa mort. Écoute, Paul, tu sais qu'on est capable de dérision, puis toi aussi, puis
oui.
Jusqu'à il y a quelques semaines, enfin, jusqu'à il y a quelques jours avant son opération, on s'échangeait encore des courriels, puis on s'amusait, puis on tournait en dérision ceci et cela. Ça n'a jamais cessé jusqu'à son dernier souffle. Il a été comme ça, puis je pense que c'est pour ça qu'il a créé autant d'amour, pour autant de fascination, je dirais, je mets ça en guillemets, dans sa vie personnelle et professionnelle.
Je me souviens quand il a décidé de se lancer, c'est le cas de le dire, dans les véhicules récréatifs, puis de partir en tournée. Puis je connaissais évidemment sa passion pour les États-Unis. Il m'avait déjà envoyé des photos de tous les stades de baseball qu'il avait recensés. Bon. Et là, j'avais dit, mais pourquoi tu veux faire ça? Puis il m'a dit, contrairement à ce qu'on pourrait penser, oui, rouler puis voyager, mais c'était pour lui une occasion de retrouver ses proches. Je pense qu'il est allé avec ton père à un moment donné.
Oui.
C'était important. En fait, le véhicule devenait une espèce d'endroit familial.
En fait, Paul, je dois t'avouer que quand mon frère a découvert cette passion-là, j'ai été renversé. Parce que tu sais ce que c'est, ben, je sais pas si tu sais ce que c'est, Paul est plutôt une ermite, hein, comme tu sais.
Oui, oui.
Et là, je le voyais déployer son RV dans un terrain commun, avec des gens autour, pas très loin, à droite, à gauche, en avant, en arrière. Et je le voyais au volant du RV et ça ne fonctionnait pas dans ma tête. Je voyais pas Paul là-dedans. Mais j'ai rapidement compris que Paul, à son âge un peu plus avancé, avait trouvé enfin une passion. Il avait trouvé quelque chose qui lui permettait de s'évader, qui lui permettait de vraiment vivre et de mettre son attention sur quelque chose en particulier. Je le sentais tellement bien et j'étais heureux pour lui. Parce que moi, j'ai fait mes choses, Paul. J'ai été pilote, j'ai eu mon avion, j'ai fait de la moto, j'ai joué au golf. Paul faisait rien de tout ça. Paul restait dans sa bulle, dans son univers. Et là, je pense qu'il avait trouvé la façon de prendre sa bulle, puis de la transporter dans son RV, et de vivre cette espèce de grande évasion quand tu es sur la route, puis de parcourir les États-Unis. Et oui, tu as raison, ça a été un grand rassemblement entre Paul et ma sœur, parce que ma sœur en est une grande adepte aussi.
Ce qui est intéressant, tu le disais hier à Tout le monde en parle, c'est l'influence parentale de parler de tout. Et Paul m'avait dit ça, et je dis, mais c'est fantastique, tu me parles de sport avec passion, il pouvait me parler de politique, d'histoire. Je me souviens quand on avait, par exemple, un repas, puis qu'on cherchait tous les deux une réponse, ça pouvait pas rester comme ça, il fallait trouver la réponse, il prenait son téléphone, puis il dit, écoute, j'ai un blanc, puis c'était rare, là, mais ça arrivait. Il y avait quand même, et on le sent chez toi aussi, cette espèce d'ouverture sur le monde au complet, sur l'actualité, sur ce qui se passe, c'est pas une préoccupation là, d'un événement ou d'une carrière là, limitée.
Non. Et puis, tu sais, Paul, je pense que la radio montréalaise a été et est encore très, très, très gâtée, très chanceuse d'avoir eu des Paul Arcand, des Paul Hood, à une certaine époque plus lointaine, des Jacques Proulx, des Serge Bélair et ainsi de suite, parce que le fil conducteur, c'est une soif de connaissance, de passion, mais aussi une passion pour communiquer. Et cette façon de communiquer, ce goût-là, c'est sûr que c'est venu de Paul Senior. Aline nous a donné beaucoup de rigueur. Aline était sans retenue là pour s'assurer que nos devoirs étaient bien faits, les conjugaisons, la syntaxe et ainsi de suite. Et ça, on lui doit tout ça. On doit à Paul Senior qui avait pas beaucoup d'argent. Mon père a à peu près pas voyagé dans sa vie, mais il voyageait dans sa tête, il voyageait par la télévision, il voyageait par les cartes géographiques. Et au souper, nous, tu sais, Paul, on est d'une génération où il fallait se taire au souper. Ouais. Ben, pas chez les Hood, il fallait parler au souper. Paul Senior imposait qu'on parle, et qu'on parle de n'importe quoi. Puis on avait le téléjournal, souvent avec Gaétan Montreuil, à la télé derrière nous. Et c'est bien sûr qu'on s'est nourri de tout ça, et ça touchait le sport, bien sûr, parce que mon père était un grand passionné de sport et des sports olympiques, tu t'imagines, déjà dans les années 60. Et c'est sûr que ça rejaillit sur nous et ça rejaillit beaucoup sur mon frère.
Pierre, encore une fois, nos pensées sont avec votre clan, comme on dit. Merci beaucoup vraiment d'avoir été avec nous, c'est tellement apprécié.
Merci beaucoup, Paul. J'apprécie cette opportunité. Puis donne-moi 10 secondes pour dire un grand merci à tout le monde. La vague d'amour qu'on reçoit me fait pleurer encore ce matin. Je sans mots. Je sais pas quoi dire. Merci tout le monde. Vous nous enveloppez d'amour. C'est incroyable. Et puis merci à tous mes collègues, évidemment, de mon milieu. Alain, toi, tous les gens d'RDS.
Merci, Pierre. Bonne journée.
Salut.
Bye. Pierre Houde, le frère de Paul. Et je vais vous faire entendre avant d'aller à la pause, retrouver Marc, là, un extrait d'une entrevue que Paul nous avait accordée quand il a quitté le 98.5 en juin 2022. Et il raconte un peu le moment où nos chemins se sont croisés, qui était en 1994 et qui était la fusion forcée, là, si on veut, un mariage forcé de deux stations qui étaient en compétition. CJMS d'un côté, je faisais le matin, et CKC de l'autre, Paul faisait le matin. Et donc, les deux entreprises deviennent une entreprise, le grand CKC, et moi, je prends sa place. J'arrive à CKC. C'est la décision des patrons. Et je connais Paul un peu, mais pas plus que ça. Et on s'est rencontrés. Puis, je vous laisse expliquer comment ça s'est passé.
Ben, je dois dire que c'est un enseignement des choses de la vie. Il arrive des moments qui semblent traumatisants au départ, puis tout à coup, ça ouvre la voie vers quelque chose d'autre. Et on est devenus amis alors que nous étions concurrents.
Exact.
Nous avons été ensuite amenés au sein de la famille forcée du grand CKAC. Et je considère que c'était arrivé en 1994, rappelle-toi. Et je considère que quelques 28 ans plus tard, je te compte parmi mes meilleurs amis, Paul.
Et t'es tellement un bon ami que j'ai organisé surprise, surprise pour te piéger à l'aéroport de Saint-Hubert. C'est chiant, mais je l'ai fait. Ça a donné l'épisode que les gens ont vu. Alors
mais
que t'étais...
je tiens à dire, j'ai eu ma revanche
oui, c'est vrai.
Au quiz Le Cercle,
oui,
lorsque ton fils a triomphé.
Vous voyez, même les amis peuvent se faire des vacheries comme ça. Et c'était toujours comme ça. C'était une pluie de courriels qu'on qualifiait de psychotronique. Bon, personne lit ça, mais Paul avait cette plume assez extraordinaire. Et une anecdote pour conclure, quand on a voyagé à quelques reprises ensemble, on est allé à New York, je le disais tantôt, il trippait sur Janis Joplin, puis on s'est ramassé dans une soirée, il a passé la soirée debout à écouter un spectacle hommage à Janis Joplin. Mais une de nos activités préférées, c'était dans une salle d'attente à l'aéroport, un petit jeu. C'est Paul qui m'avait dit, écoute, on va jouer. Là, je le regarde, tu veux jouer? Tu veux jouer à quoi? Il dit, on va jouer au jeu des sosies. Alors, il dit, on va regarder autour de nous. Puis quand on voit quelqu'un qui ressemble à quelqu'un de connu, on avertit l'autre. Alors, ça donnait exemple, je vais dire n'importe quoi. Il me disait, Paul, à droite, Gilbert Scott. Et là, je me tournais, puis là, je voyais quelqu'un qui ressemblait à Gilbert Scott. Et puis je faisais la même affaire. À gauche, Véronique Cloutier. Évidemment, c'était pas elle, puis c'était pas eux, mais ça, c'était notre moyen de se détendre et de rire. Et arrive un moment, et j'oubliais sincèrement le nom de la personne. Et Paul me dit, à droite, X. Fait que je me tourne. Je lui dis, Paul, c'est parce que c'est le vrai. C'est pas le faux. Et là, il s'est mis à rire. Mais c'était comme ça, Paul Oud. Et un grand communicateur, un homme de radio, mais plus que de radio. Vous l'avez vu en fin de semaine, encore hier soir. Tout le monde en parle. À quel point il a fait sa marque. On a vu une augmentation du nombre de cas de rougeole au Québec. Je regardais en fin de semaine une série de reportages en Europe, aux États-Unis, sur l'augmentation générale du nombre d'enfants qui sont affectés par la rougeole. On parle d'une augmentation de 18 %. Je vais faire le point ce matin avec le directeur national de la santé publique, le docteur Luc Boileau. Docteur Boileau, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arca. Ça me fait plaisir de vous retrouver, même si les circonstances... Les témoignages juste avant ce reportage sont très affectants.
Oui, ben c'est sûr. Mais je veux vous parler de rougeole parce que ce que je comprends, c'est qu'il y a une augmentation. Enfin, il y a des cas récents au Québec, mais ce phénomène-là semble vrai en Europe puis vrai aux États-Unis.
Effectivement, on a des gens qui sont moins bien vaccinés en Europe et aux États-Unis aussi. Mais au Québec aussi, au Canada, mais au Québec aussi, et c'est ça notre problème, c'est que cette maladie-là qui était somme toute éliminée de la scène canadienne et québécoise, évidemment, depuis quelques années, ben elle refait surface parce qu'on a des gens qui reviennent avec la rougeole et qui sont en contact avec des autres personnes et des enfants notamment qui n'ont pas été vaccinés. Alors, c'est un virus qui est très, très, très contagieux, qui peut être très grave aussi, qui peut aller jusqu'à des maladies très graves, des encéphalites, des pneumonies, puis la mort aussi. Alors, c'est faut prendre ça au sérieux. Mais effectivement, on a des groupes, des citoyens petits, souvent, qui sont pas bien vaccinés, puis c'est là où on est très inquiets, nous autres.
J'avais l'impression que la couverture vaccinale était bonne. J'avais l'impression que la rougeole avait pratiquement disparu. Je voyais des cas aux États-Unis, mais je me disais, bon, il y a un mouvement anti-vaccin quand même assez fort. Même chose en Angleterre. Est-ce que ça veut dire que les gens, par exemple, depuis la pandémie, sont moins portés à faire vacciner les enfants?
C'est une très bonne question. On a des études qui nous ont montré qu'effectivement, il y a une baisse de 2-3 % de l'intérêt vaccinal pour les enfants depuis la pandémie. Vous le dites bien, il y a eu cette espèce de fatigue vaccinale, puis les gens ont remis ça en question. Ils se sont eux-mêmes campés des fois dans un esprit plus anti-vax, ou en tout cas de remettre ça en question. Je ne dis pas qu'ils sont à tout azimut, mais ça nous a fait baisser ce taux de couverture-là. Et actuellement, au Québec, pour avoir vraiment une population qui rejette automatiquement l'arrivée d'un virus comme celui de la rougeole, ben si on avait 95 % de taux de vaccination, elle rentre pas, là. Elle rentre, puis elle va circuler très, très peu, puis ça va arrêter. Mais au niveau de nos écoles secondaires, en moyenne, on est à autour de 88-89 %. Les écoles primaires, 86-87 %. Mais, M. Arcan, il y a des écoles où c'est très bas. C'est même en bas de 50 %. Alors ça, là, c'est un nid potentiel d'une circulation très forte. Et c'est ce qui nous inquiète. C'est pour ça qu'on invite tous les parents à vraiment vérifier si leurs enfants ont été vaccinés et à profiter de la vaccination dès maintenant. Il faut aller sur Clic Santé. Tous nos services vont être disponibles pour se faire. Puis on fait le point cet après-midi à 13h parce qu'il est arrivé des choses en fin de semaine où on voit là, qu'on a un risque de transmission communautaire encore plus grand. Là.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Il est arrivé quelque chose? Il est arrivé quoi en fin de semaine?
Ben en fait, c'est qu'il est arrivé il y a quelques jours des situations dans des contextes là, où est-ce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont été en contact avec peut-être beaucoup d'enfants ou de parents. Et puis ça on est là-dessus, là, M. Arcan. Très franchement, je vous le dis, je suis tout de suite après cette entrevue, je vais retomber là-dessus pour essayer de faire le point avec les collègues, mais on va être avec des gens de Dr Couache à 13h, sans doute Dr Drouin aussi, et puis on va faire le point pour bien aviser qu'est-ce qui se passe en ce moment. Alors, il y aurait il y aurait des situations. De toute façon, regardez, le nombre de cas augmente. On a d'autres cas qui sont en attente de diagnostic confirmé, mais on aurait des contacts là, avec des personnes qui pourraient nous inviter à envoyer un signal clair aujourd'hui. On raffine nos dispositions et on okay. fait ça à 13h.
Parfait, ça, je comprends ça. Un rappel de base, là, les symptômes de la rougeole, ça consiste en quoi?
Ben, au début, ça ressemble à d'autres choses. Hein. Les yeux vont piquer, on va avoir les yeux rouges qui vont larmoyer les enfants, là, et beaucoup, même les adultes. Après ça, ben en même temps, après ça, on va être congestionné, on va être fatigué, on va faire de la fièvre, et puis on va avoir mal aux oreilles souvent, puis les gens vont se présenter comme ça. Quelques jours après, à peine 3-4 jours après, bang, on a un rash au visage, là, qui est comme on le voit, on peut trouver ça des photos facilement sur Internet, un rash qui commence au visage puis qui s'étend sur tout le corps. Mais la fin, c'est qu'on commence à être contagieux 4 jours avant d'avoir le rash, puis 4 jours après. Fait que puis pendant cette période-là, contagieux, là, ça veut dire contagieux, là, c'est un virus qui circule plus facilement, qu'on transmet par voie aérienne, plus encore, plus vite que la COVID récente qu'on a, là, qui a été tellement contagieuse. Donc, c'est vraiment une maladie très, très contagieuse. Si quelqu'un qui n'est pas vacciné, qui est en contact avec une personne comme ça, ben écoutez, c'est au moins 90% vont avoir l'infection. Alors, c'est très contagieux, c'est facile à attraper. Puis même ceux qui sont vaccinés dans de rares cas, peuvent en faire une, mais c'est souvent plus frustre, là, puis c'est moins à risque. Mais l'important, c'est vraiment de protéger ceux qui ne le sont pas vaccinés. À un point tel, M. Arcand, que si on a des cas dans une école puis qu'il y a des enfants non vaccinés, on les sort. On les sort de l'école pour dire tu reviens pas tant que la période de contagiosité n'est pas terminée. Mais l'idéal, c'est qu'on les vaccine tout de suite. Vous savez, le vaccin il est tellement bon qu'on est capable de le donner dans les quelques 3-4 jours après un contact. Puis il va avoir un effet protecteur chez les enfants. Alors, c'est un vaccin très efficace, il n'y a pas d'effet secondaire, à part évidemment avoir mal un peu, des fois pour faire de la fièvre, là, c'est rien ça, mais c'est pour la protection que ça donne, là, vraiment, faut pas hésiter. Là.
Mais dites-moi, quelqu'un qui a été vacciné il y a 20-25 ans, l'efficacité reste la même?
Oui. Quelqu'un qui a été vacciné dans le passé, il y a 20 ans, 50 ans, ça reste la même. Pour des gens qui sont nés avant 70, ben on considère que le virus a tellement circulé au Québec, vous vous souviendrez, là, ça circulait, on la faisait, on n'est pas tous tombés morts, mais il y en a plusieurs qui le sont tombés, malheureusement. Alors, on estime que les gens sont vaccinés. C'est sûr que si on avait des éclosions multiples, ben, les gens, même les personnes âgées, on dirait, ben regarde, on peut proposer une vaccination supplémentaire, juste une dose, un booster, on est là-dessus. Mais globalement, là, ceux qui ont été vaccinés, ou ceux qui sont plus que 1970, on s'inquiète pas. C'est vraiment les plus jeunes ou les nouveaux arrivants qui arrivent ou d'autres qui l'ont donné les parents il y a plusieurs années ont dit non, moi je ne fais pas vacciner. Ceux-là, là, ça vaut la peine d'être protégés. Puis surtout les enfants. Tu sais, un enfant qui fait une rougeole, là, c'est préoccupant. Puis nous, on vaccine à 12 mois. Hein. C'est 12 mois, 18 mois. Alors un enfant qui a moins de 12 mois qui est exposé, on saute dessus. Là. On y donne des immunoglobulines ou on le vaccine. Si en haut de 6 mois, on va le vacciner tout de suite. Mais sinon, on donne des immunoglobulines et on prend ça au sérieux, bien, bien, bien au sérieux. C'est une maladie qui peut être bien grave. Puis on a eu des cas récemment là, d'enfants hospitalisés. Là, la plupart vont bien, là, puis on est bien content, mais attention. Alors, on prend pas de risque avec ça. Mais vraiment, si on veut s'aider, c'est on vaccine nos enfants, puis ça presse.
Et on rappelle que c'est gratuit. Là. Je sais que dans d'autres pays, les gens payent, mais ici, c'est gratuit. Vous l'avez dit, là, sur Clic Santé, les gens peuvent réserver, prendre une plage horaire pour aller se faire vacciner.
C'est non seulement gratuit, mais on va assurer que le service soit aussi bon que ce qu'on a fait avec la COVID. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, puis je peux vous dire que non seulement c'est gratuit, mais c'est de qualité, et pour les tout-petits aussi. Alors, profitons-en, c'est là. Parce que ça pourrait monter. Monsieur Arcand, je vous dis, c'est pas une situation qui va durer une semaine, ça, là. Ça va durer des semaines et des semaines. En Europe, là, ça fait des mois. Alors, on le sait que ça va circuler. On veut juste pas que ça nous donne des situations d'une tristesse absolue.
Docteur Boileau, merci. Bonne journée.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Et bonne journée à vous aussi.
Docteur Luc Boileau est le directeur national de la santé publique. Maintenant, la presse nous arrive ce matin avec des chiffres troublants, des images troublantes du centre jeunesse de Laval, où, en raison de la surpopulation d'enfants, du 115, du 125%. Il y a des enfants qui sont envoyés dans ce qu'on appelle des salles d'isolement. Puis quand vous regardez les photos de ces salles-là, ben ça ressemble, veut, veut pas, à des cellules. Le petit lit, la petite chaise, le petit bureau, parce qu'on sait pas où les envoyer. Donc, des enfants qui sont là souvent en protection. Je vais en parler avec Régine Laurent, qui a présidé donc cette commission d'enquête. Régine Laurent, bonjour.
Bonjour.
Je veux vous entendre quand vous voyez ces chiffres-là, ces images-là, là, sur les conditions d'hébergement des enfants.
Ben, la première question qui me vient, je pense que dans ce contexte, il faut se poser la question, est-ce que les droits de ces enfants-là sont bafoués? Parce que le chapitre 7 de notre rapport, M. Arcan, s'intitule « Humaniser les services de réadaptation ». Le titre là, ce titre-là, c'est pas pour rien, là. Parce que normalement, réadaptation, c'est un lieu de guérison, ce sont des enfants qui ont vécu des traumas. Et je me souviens d'une jeune qui est venue, jeune adulte, qui a témoigné à la commission, puis elle a dit, moi, là, quand j'étais, on me mettait là, et là, le seul contact que j'avais avec l'extérieur, c'était d'entendre les clés des intervenantes qui passaient dans le corridor. C'est pas normal, et je ne comprends pas que on a une DPJ nationale qui vienne pas faire état de la situation, parce qu'elle est en lien avec tous les DPJ à travers la province. Je comprends pas. Et nous, on avait recommandé qu'il y ait une mise en chantier pour mieux répondre aux besoins des jeunes en réadaptation avec des critères dont il fallait tenir compte. Et on avait demandé que ce chantier se mette rapidement en branle. Mais le DPJ national devrait venir nous dire il en est où ce chantier? On est à quel niveau? Parce que c'est pas normal ce qu'on voit là. Et moi, dans le cadre de la commission d'enquête, j'ai visité un centre jeunesse Laval. Et vraiment, moi, les chambres ordinaires, là, je comprends qu'il y en a qui veulent se sauver. Je vous le dis très honnêtement aujourd'hui. Et en même temps, j'ai vu des foyers de groupe extraordinaires. Fait qu'on est capable de faire des belles choses.
Régine Laurent, vous parlez de la directrice nationale de la protection de la jeunesse. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'elle fait au juste? Parce que sincèrement, depuis son entrée en fonction, à part de pondre des grands communiqués, puis nous dire que le bateau est en mouvement, là... Heureusement, il y a des employés de la base qui dénoncent ce qui doit être dénoncé.
Mais écoutez, dans son mandat, notre DPJ nationale, elle doit entre autres s'organiser pour être sûre que les pratiques sont les bonnes pratiques partout sur le territoire du Québec. Elle doit s'assurer de que les intervenants ont la formation nécessaire. Elle doit être dans son lien avec les DPJ nationales, s'assurer que d'harmonisation des bonnes pratiques. Elle doit aussi être capable de redresser la barre puis de dire telle pratique c'est peut-être nuisible pour les enfants, on va faire autrement. Je vous dirais, elle est au-dessus et elle devrait être en lien avec tous les DPJ et être capable de redresser ça et de s'assurer que les enfants sont traités correctement. Parce que les centres de réadaptation, ce sont des lieux de guérison. Donc, elle doit s'assurer que tous les enfants ont ce qu'il faut pour guérir. Et non pas pour les enfermer dans des trucs comme on voit. Puis je l'ai vu, je l'ai vu de mes yeux vus là dans un centre jeunesse. C'est comme ça que c'est. Alors ça n'a pas de bon sens. Un jeune qui vit comme ça et qui pour des mesures disciplinaires, parce que dans l'article on dit ben c'est des tannants. Ben j'espère qu'il y en a des tannants. Vous avez vu des enfants, moi aussi. Ben oui, il y a des moments ils sont tannants. Bon, ils ont pas enfermé dans une affaire qui ressemble à une prison.
Mais il y a quelque chose qui marche pas là. C'est-à-dire que ce qui est assez frappant, moi j'en ai visité des centres là, et même dans les nouvelles constructions, il y avait des salles d'isolement où on plaçait des enfants. C'était l'espèce en cas de débordement ou comme vous dites là, d'enfants tannants, on les envoyait dans ces endroits-là. Là. Non seulement on les envoie quand ils sont tannants, mais dans certains cas, ça devient leur chambre.
Oui. Et ça n'a aucun bon sens parce que on sait très bien que l'environnement c'est important encore plus pour des enfants qui sont en plein développement. Alors si sa chambre ça ressemble à une prison, c'est pas très intéressant pour l'enfant, c'est pour son développement, pour son imagination. Qu'est-ce qu'il va s'imaginer lui dans son univers? Sa chambre ressemble à une prison. C'est rien de bon là. Et ce qui est vraiment important aussi, c'est que les enfants, ça a été démontré à la commission par beaucoup de témoignages. Quand les enfants sont dans des milieux comme ça, ben ça vient fragiliser le lien avec les adultes. Ils veulent plus leur faire confiance parce qu'ils se disent tout ce que tu me donnes, tout ce que comme reconnaissance ou comme amour, c'est de m'enfermer dans une affaire qui ressemble à une prison. Alors après, on se demande, quand ils grandissent, qu'ils deviennent ados à 16-17 ans, puis qu'ils sont complètement déboussolés, qu'ils veulent plus rien entendre, qu'ils nous font plus confiance, nous les adultes, ben posez-vous pas la question si c'est comme ça qu'on les a traités dans les centres de jeunesse, que je le répète, qui sont des centres de guérison et de réadaptation. Alors moi, je pense que ce chantier qu'on avait demandé de mettre sur pied, puis je vous rappelle que notre rapport date de 2021, on est en 2024, alors la DPJ nationale devrait être capable de nous dire où s'en est ce chantier-là. Et en plus, le CIS de Laval nous dit avoir déposé
un plan de modernisation
au ministère de rénovation. Ben, on en est où aujourd'hui? Ils ont déposé en 2021, on est en 2024. C'en est où ces rénovations-là qui sont, à mon avis, urgentes pour respecter les enfants? Parce que je répète, dans un contexte comme ça, on doit se poser la question, est-ce que les droits de ces enfants-là sont bafoués? Et ça, ça me met en colère.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée.
Merci, bonne journée.
Au revoir. Régine Laurent, qui a présidé cette commission d'enquête, qui a fait un long rapport où on a proposé et obtenu la création donc de ce poste de la directrice nationale de la DPJ. Mais sincèrement, je pense qu'on a fait deux entrevues avec elle, puis on ne sait pas exactement ce qu'elle fait, puis on ne sait surtout pas quelles sont les mesures correctives qui ont été apportées depuis que ce rapport et depuis que ce poste a été créé. Et quand on dit, par exemple, qu'un petit bonhomme de 9 ans se retrouve à côté d'un ado de 16 ans, c'est rien pour aider là à calmer l'enfant puis à lui permettre, je dirais, d'avoir un milieu de vie qui soit acceptable.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.